Parole d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Pour la première fois depuis 2011, je suis seul en studio. Généralement, il y a un entretien en direct, un entretien dans le studio en direct, ou un entretien direct par téléphone, ou encore un entretien différé. Ce soir, je suis seul avec vous, c'est la première fois. Je vais sans doute, dans cette émission, recourir à une quinzaine, une vingtaine d'auteurs, et si vous souhaitez les connaître, connaître les références, je vous rappelle la note de synthèse que je ferai et qui accompagnera l'émission dans quelques jours sur le site www.culture-education-singulier.com/. Cette émission a un thème qui peut vous surprendre peut-être. Le voici, 5 combats pour le 21e siècle. Au 21e siècle, les guerres continuent hélas. Des guerres larvées, localisées davantage, les deux guerres mondiales, Dieu merci à ce jour, ne se sont pas répétées encore dans le 21e siècle. De la terre, elles peuvent envahir le firmament. Mais à cela s'ajoute, il ne faut jamais l'oublier, au moins 5 combats majeurs. Sournois, rampants, masqués, mais décisifs. Nous pouvons ne rien faire, fuir, subir ou combattre. La vie est un combat et exister est encore plus un combat. Alors nous allons voir quels sont ces 5 combats qui ne sont pas les seuls, mais qui sont inévitables et imparables. Mais en ce début d'émission, je voudrais aussi rendre hommage à Anna, qui m'accompagne pour concevoir les émissions et souvent les structurer, les organiser quand les entretiens ont été pris sur place ailleurs, trouver les musiques, etc. Et puis Arthur, technicien en studio, grâce à qui la qualité des émissions, vous en rendez pas compte, chers auditeurs, est parfaite. Et ce soir, à défaut d'avoir des partenaires dans le studio, il interviendra sur des musiques qui vont rythmer notre recherche. Quels sont ces 5 combats qui sont inévitables pour chacun d'entre nous au cours de ce 21e siècle? Il y a, selon moi, le premier combat, c'est soi-même. J'y reviendrai avec quelques auteurs. On l'oublie trop souvent. Il faut commencer par soi-même. Le deuxième combat, c'est l'autre. L'autre qui est rejeté, soit par des murs, soit par le racisme, soit par des formes de haine, de violence. Bref, l'autre. Le troisième combat, c'est la nature. Le quatrième, c'est la mondialisation. Elle n'est pas d'aujourd'hui, mais jamais elle a été aussi intense, turbulente, parfois violente, parfois profondément inégale, et elle recompose le monde à une allure assez impressionnante. Et puis le cinquième combat, c'est la technologie, qui nous accompagne depuis le début du monde, mais qui prend une ampleur telle que demain, le monde peut disparaître aussi par la technologie. Alors commençons par ce premier combat, c'est-à-dire se connaître soi-même. C'est un travail tout au long de la vie. Nous restons mystères pour nous-mêmes tout au long de la vie, comme l'autre est aussi pour nous mystère. Il ne faut jamais l'oublier. Et il y a un très beau livre, j'ai choisi en livre de poche pour que ça soit plus accessible, de Marie de Henzel et de Bertrand Vergely, qui a pour titre « Une vie pour se mettre au monde », qui est un merveilleux livre. Que disent les auteurs ? Vive, c'est se mettre au monde plusieurs fois. La première naissance, elle est évidente, elle est physique. Les autres passent parfois inaperçus, mais sont tout au long de la vie, j'y reviendrai, c'est un thème majeur. Une vie, avec ce qu'elle nous donne, nous inflige, suppose de chercher profondément en soi les ressources pour s'adapter en permanence. Car nous n'en finissons pas d'utiliser notre potentiel, et certaines études empiriques montrent que la plupart d'entre nous quittons cette terre sans avoir utilisé 40% de notre potentiel. Il s'agit de naître à nous-mêmes, à chaque étape, de découvrir un être renouvelé, un être pour se mettre au monde, c'est-à-dire une vie pour apprendre. Cela, c'est une perspective absolument extraordinaire. Une vie surtout pour apprendre à rester émerveillé. Et Gaston Berger a raison de dire que, en l'occurrence, la vieillesse, selon lui, Gaston Berger, qui était un homme de prospective, c'est le rétrécissement des champs des possibles. Alors, ça l'est par le fait de vieillir, Mais le fait d'être vieux réduit encore le champ des possibles, et on peut être vieux à 20 ans, voire plus. Mais il y a aussi cette très belle phrase d'Eleanor Roosevelt, que je trouve très belle, « Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». Ça rejoint une phrase célèbre, modifiée parfois d'Antoine de Saint-Exupéry, dont la mère, encore une fois, a vécu à côté de Grasse, à Cabris, pendant plus de 32 ans, c'est vous dire la richesse du lieu d'où nous partons pour cette émission, c'est-à-dire Grasse. Et Saint-Exupéry disait « Veille à ce que ton rêve ne dévore pas ta vie pour que ton rêve fonde ta vie ». C'est du même ordre. Alors, il y a donc cette perspective qui est plutôt optimiste, plutôt encourageante, et qu'il ne faut jamais oublier. Il y a aussi un auteur sur lequel je reviendrai deux fois dans cette émission, Martin Buber. Il a écrit en particulier un tout petit livre, « Le chemin de l'homme », dont Hermann Hesse, qui n'est quand même pas n'importe qui, dit « Cher monsieur Martin Buber, parmi vos écrits, le chemin de l'homme est certainement ce que j'ai lu de plus beau. Je vous remercie du fond du cœur pour ce présent précieux et inépuisable. Je te laisserai me parler bien souvent, dit-il à propos de ce livre. » Comment résumer la pensée de Martin Buber dans ce livre pour aller à l'essentiel? Un petit livre, mais très très riche. Je dirais ceci. Commencer par soi, mais ne jamais finir par soi. Se prendre pour point de départ, mais jamais comme but. Se connaître, mais non se préoccuper de soi. Ce petit livre, tout simple, vous apprendra des choses merveilleuses sur le chemin de vous connaître vous-même. Et puis, il y a la question de l'éducation. Il est étrange que, dans notre monde, nous commençons à parler, de l'écologie, mais que la question de l'éducation semble complètement oubliée. Or, la question de l'éducation est essentielle. Dois-je rappeler que des voix célèbres se sont élevées au XXIe siècle et au XXe siècle pour dire, par exemple, la course est désormais engagée dans notre civilisation entre l'éducation et la catastrophe. Si nous ne gagnons pas la bataille, y aura-t-il seulement un XXIe siècle pour notre civilisation? Ou encore, par exemple, George Friedman, qui a vécu à côté de Grasse pendant des années et qui a fait un très beau livre, « La puissance et la sagesse », et qui écrit « L'éducation, son succès ou son échec, commande l'avenir de l'homme ». Mais la question que je repose ce soir avec vous, chers auditeurs, de quoi parlons-nous quand nous parlons d'éducation? Alors j'allais dire qu'il faut d'abord éviter de confondre enseignement et éducation. Voilà sans doute une erreur qui va nous coûter très cher, car apparemment elle est rentrée dans les plis quotidiens de chacun d'entre nous. L'enseignement n'est pas l'éducation et l'éducation n'est pas l'enseignement, même s'il y a aucun enseignement qui ne peut se faire sans une conception éducative, et s'il n'y a pas d'éducation qui ne soit pas dans une certaine mesure l'enseignement. Mais à force d'entendre dire qu'il y a un ministère de l'éducation nationale, alors que jusque dans les années 30 c'était le ministère d'instruction publique, on laisse penser que l'éducation relève d'un ministère, que les familles s'en sont désengagées et que le ministère de l'éducation doit s'occuper d'éducation, ce qui n'empêche pas les parents de réagir parfois quand un instituteur prend quelques actes éducatifs qu'il n'apprécie pas. Alors, j'allais dire sur ce point, j'insiste sur deux choses, parce qu'elles sont essentielles. Mais avant, je voudrais vous rappeler quelque chose que je trouve extraordinaire. Il y a des siècles, un sage chinois, c'est vous dire combien dans le passé on peut trouver des matériaux pour le présent et le futur. Il y a des siècles, donc, un sage chinois, conseiller de l'empereur, dit à cet empereur ceci. Écoutez bien, on croit qu'il parle pour aujourd'hui. Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante, qui pourrait durer des décennies et coûter cher en vie humaine. Il vous suffit de détruire son système d'éducation et de générer la corruption. Ensuite, vous attendrez 20 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore attendre 20 ans? Et vous aurez alors un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Ce qui est étrange, c'est qu'à cette citation, qui date d'il y a des siècles et des siècles, un professeur de sciences politiques à Paris disait récemment ceci. Je modifierai le dernier mot de l'expression, car je le trouve un peu vulgaire à l'antenne. Plus il y a de diplômés, plus il y a d'idiots. Le mot d'idiot était repris par un autre mot que vous pouvez imaginer. Oui, parce que être diplômé n'est pas être éduqué. Et dans une certaine mesure, on peut même arriver à trouver des diplômés qui soient de moins en moins éduqués. Alors, quel est le défi, le grand défi pour se connaître soi-même et avancer dans cette perspective essentielle en l'occurrence ? C'est d'abord, à mon avis, de nous rappeler que ce que nous appelons l'éducation n'est plus l'éducation. Ce que nous appelons l'éducation est en fait la définition que Durkheim donnait au début du XXe siècle et qui n'est plus à l'ordre du jour. C'est fini. Cette éducation est dépassée. Elle est terminée. C'est une autre conception, ce que j'appellerais le nouvel esprit éducatif. Alors, que disait cet auteur au début du XXe siècle et qui est encore dans tous nos esprits ? Il disait ceci. L'éducation, c'est l'action des générations adultes pour éduquer les enfants et les adolescents et les conformer à ce que la société attend d'eux. Ça n'a plus de sens et cette éducation est obsolète. L'éducation d'aujourd'hui, c'est l'éducation, c'est un nouvel esprit éducatif qui concerne chacun, je dis bien chacun, quel que soit son âge et tout au cours de sa vie. Je dirais peut-être que cette éducation, elle comprend 9 apprentissages de base. Alors, regardez où vous en êtes pour chacun. Le premier, c'est se connaître et s'autoriser à devenir. Où en êtes-vous ? Est-ce que vous vous connaissez suffisamment ? Est-ce que vous avez envie de vous connaître ? Est-ce que vous vous autorisez à devenir ? Le deuxième, c'est l'esprit de recherche. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, qui est une citation d'Edgar Morin, que je trouve très belle, et qui dit ceci. Que signifie le mot recherche ? C'est vivre pleinement la question. Autrement dit, dans une certaine mesure, nous sommes toujours en recherche. Donc la recherche n'est pas le fait de chercheur, n'est pas, dans certaines instances, elle concerne chacun d'entre nous. La troisième apprentissage de base, c'est apprendre à apprendre, en tout domaine. Moi, quand je fais la cuisine, j'ai appris à faire la cuisine un peu tard, j'ai quelques difficultés, eh bien je vais voir sur Google, je regarde la recette, la première fois c'est plus ou moins réussi, la deuxième c'est convenable, et la troisième c'est généralement satisfaisant. C'est aussi penser à agir. Alors, sur ce point, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, car si nous n'arrivons pas à penser autrement, en l'occurrence, nous sommes perdus. Déjà, Edgar Morin le dit remarquablement à propos de la complexité. Si nous n'avons pas une pensée complexe, nous sommes perdus. Alors, moi, j'ajouterais à Edgar, dans sa perspective de la complexité, qui est la première perspective, les autres dimensions suivantes, j'en vois pour l'instant 6, mais vous en trouverez peut-être d'autres, chers auditeurs, les neurosciences, et plus largement les sciences, mais tout ce qui gravite actuellement autour du cerveau est absolument passionnant et nous aide à penser autrement. Il y a aussi le rapport entre la pensée occidentale et la pensée orientale, et je pense que un auteur français que je parlerai tout à l'heure, François Julien, se réfère souvent à la pensée orientale qui est tout à simplement passionnante. Il y a cette approche de la double critique qui est idéologique et cognitive et qui consiste à interroger, à questionner nos représentations, nos illusions et nos ignorances. Il y a les recherches au sens d'explorer, d'entrer en recherche pour chacun dans le dialogue et la controverse. Est-ce que vous avez suffisamment de dialogue et de controverse dans vos familles ? Il y a le fait de devenir philosophe de sa vie pour sa vie avec sa vie, et non pas de faire de la philosophie pour apprendre des citations à délivrer dans des dissertations de baccalauréat. Il y a à questionner le passage silencieux d'une morale, de la prescription, à une éthique de la promotion et de la dignité qui est en cours, qui est fragile et qui concerne chacun d'entre nous. Il y a la communication. Qu'est-ce la communication ? C'est pas un émetteur, un récepteur, etc. C'est peut-être tout simplement partager tous les intertraits d'union dits sans jugement. Où en sommes-nous dans cette communication ? Il y a le temps. Il y a ce très beau proverbe africain qui dit, vous, Européens, vous avez chronos, c'est-à-dire l'horloge, nous, nous avons le temps. L'horloge peut tuer le temps, parfois. Dans un monde où tout semble urgent, prendre son temps devient essentiel. Il y a l'humanité. L'humanité, dans ses origines, quels sont ceux qui font l'effort de retrouver les origines de l'humanité, les variétés, les pluralités, de contextualiser l'humanité dans son histoire, dans l'espace, dans le cosmos, je reparlerai du cosmos, d'apprendre tout simplement la condition humaine. Il y a des arts, et je vous rappelle ce que je disais vendredi soir sur les arts, que je reprendrai si j'en ai le temps à la fin de l'émission. C'est l'un des mots les plus importants de la culture, qui signifie d'ailleurs façon d'être, et qui concerne chacun d'entre nous. J'insiste, chacun d'entre nous est concerné par les arts. Et j'ai envie de vous poser, chers auditeurs, la question, quel est l'art auquel au moins vous raccrochez dans votre vie? Parce que sans poésie, sans musique, sans théâtre, sans tous les arts, que serait notre vie? Et puis, il y a le 9e apprentissage, qui est très important, sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir si j'en ai le temps, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Car je crois que la déliance, la disparition du lien social dans tous les domaines s'amplifie et nous avons perdu l'apprentissage du vivre ensemble. Il y a enfin cette idée magnifique, à mon avis, de François Julien, qui est à la fois philosophe grec, mais aussi helléniste, donc qui s'appuie beaucoup sur la pensée chinoise, et qui, dans un livre magnifique, Une seconde vie, nous dit grosso modo ceci. Une seconde vie est une vie qui, du cours de la même vie, c'est-à-dire de la première, se décale lentement d'elle-même et commence de se choisir et de se réformer. Autrement dit, pour accéder à la seconde vie, il faut penser que ce sont des vérités non pas démontrées, mais décantées par la première vie. Et tout d'un coup, on se dit, mais ai-je vécu jusqu'à ce jour? Et alors, à ce moment-là, grâce à la lucidité, nous prenons conscience qu'une seconde vie est possible dans la même vie. Ou encore, qu'un second amour, fondé non plus sur la possession, mais sur l'infini de l'intime, peut débuter. Voilà un très beau livre qui devrait être prioritaire pour chaque citoyen. Voilà, si vous voulez, se connaître, et nous allons écouter un instrument qui va vous faire résonner, un événement récent, mais qui porte quelque chose de profond. C'est l'orgue de Notre-Dame, je voulais vous le faire entendre ce soir. La deuxième combat, c'est l'autre, c'est les autres. L'autre que nous rejetons, dont nous prenons un usage à notre avantage et dont nous ne prenons plus conscience. Et il y a là, j'allais dire, deux livres à mettre en valeur, à mon avis. L'un qui est « Le jeu et le tu » de Martin Buber, avec une magnifique préface de Gaston Bachelard, et je citerai seulement, car le temps nous manque, cette phrase qui me revient de mémoire et qui est vraiment très très belle, en l'occurrence, pour montrer l'essentiel, le jeu et le tu ne sont pas des pôles séparables. C'est-à-dire, c'est quand j'arrive à m'adresser au tu que je deviens je. Eh bien, écoutons cette seconde musique de la seconde partie. Ne quittez pas l'antenne, on se retrouve après les informations. Continuons, chers auditeurs, et reprenons un peu sur ce thème de l'autre. C'est tellement important. Dans un livre dont je vous ai parlé dans une émission antérieure, qui s'appelle Solitude, et qui est un merveilleux dialogue entre Jean-François et Michel Serres, Jean-François étant le fils de Michel Serres, il y a un dialogue extraordinaire. Jean-François, qui est le délégué général des Petits Frères des Pauvres, dit « Mon engagement est dans la rencontre de l'autre. » Et il ajoute « Seul l'exercice de l'altérité permet de devenir maître de sa propre vie. » À cela, son père, autant que possible, répond d'une façon philosophique. Et Jean-François insiste « La rencontre de l'autre est fondamentale pour moi. » Il y a un livre, aussi en livre de poche, que je vous invite beaucoup à lire, c'est « L'amour et l'amitié » d'Alan Bloom, qui est un Américain, qui est un très très beau livre, un très grand livre. Et dans ce livre, il essaie de regarder ce qui se passe. Et il dit « Au lieu de l'amitié et de l'amour, nous avons des relations sexuelles et des relations amicales. » Et le projet d'Alan Bloom est de retrouver la complexité de la relation humaine. Et il termine son livre par cette expression, je vous la lis. Ce livre aura montré que la compréhension de l'amour et de l'amitié est la clé de la connaissance de soi. Et puis, il y a l'inévitable Petit Prince. Souvenez-vous, c'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, reprend le Petit Prince après avoir écouté le renard qui en fait sa valeur. Et le renard d'ajouter, les hommes ont oublié cette vérité. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Ainsi le renard rappelle que c'est le temps que nous offrons, que nous consacrons à l'autre qui en fait sa valeur et qui nous donne aussi notre valeur. Le troisième combat, c'est incontestablement la mondialisation. La mondialisation va extrêmement rapidement, elle a toujours existé. Elle s'opère par des tentatives de garder les identités et par un mouvement profond d'unification, d'uniformisation, par des inégalités énormes, nord-sud, pauvre-riche, homme-femme, et tant d'autres encore qu'il faudrait pouvoir repérer. Et si par hasard une nouvelle inégalité apparaissait entre la masse de gens soumis, comme dans Le meilleur des mondes de Huxley ou 1984 de Orwell, deux romans futuristes à relire qui existent en livre de poche, et si d'autre part, il restait quelques oasis de gens conscients qui essaient, dans la convivialité, dans le partage, d'inventer un autre monde. Est-ce que ça ne serait pas la pire des inégalités ? Il y a aussi, dans cette perspective, la question des limites. Car Jean-François Mathy, que nous avions invité dans une émission, a écrit un très beau livre sur la démesure, et un autre auteur, pratiquement inconnu, Gabriel Liciano, a écrit un livre qui s'appelle « De la limite, petit traité à l'usage des orgueilleux ». Et que nous dit-il ? Il nous dit ceci. « C'est à force de réhabiliter l'idée de modération enterrée par l'orgueil moderne que nous allons pouvoir nous rappeler, dans le sillage de l'homme révolté de Camus, de la nécessité d'une réflexion éthique soucieuse de réconcilier pensée de la liberté et pensée de la finitude. Car penser la limite, telle est notre tâche la plus urgente si nous ne voulons pas abandonner le siècle qui vient au règne d'une démesure machinale. Vous verrez combien des auteurs venant d'horizons différents, de milieux différents, de cultures différentes, de conceptions différentes convergent sur des idées fortes, très fortes, et on finit par l'oublier. Prenons par exemple le cas de Théodore Monod, qui s'en souvient ? Qui se souvient de son livre « Et si l'aventure humaine devait échouer » paru chez Grasset ? Il s'interroge, effectivement, « Et si l'aventure humaine devait échouer ?» Supposition absurde. L'homme n'occupe-t-il pas le sommet de l'évolution biologique ? N'est-il pas le seul animal dont la tanière s'éclaire dans la nuit ? Le seul qui soit capable d'avoir une histoire et de l'écrire ? L'antiserpent nous l'avait promis, vous serez comme des dieux. Et la puissance, certes, nous l'avons eue. Du moins au moins matériel. Mais nous, les rois orgueilleux de la création, nous, les maîtres d'une terre bordée de nuit, mais si l'homme n'a pas la sagesse de respecter la vie, nous dit Théodore Monod avant de partir, l'homme ne risque-t-il pas de continuer sans lui ? Voilà, sur ce thème de la mondialisation, quelques réflexions parmi bien d'autres que je vous invite à explorer et à travailler. Faisons une toute petite pause musicale avant de continuer sur le cinquième combat du XXIe siècle, la technique.
pousser dans son ventre pour qu'elle devienne pleine. C'est fou tout ce qu'elle a pu nous donner. Des fleurs, des fruits, de l'eau, du soleil pour l'été. Elle a mis des étoiles dans le fond de la mer. Du vent dans les voiles, des oiseaux dans les airs. Elle a inventé des êtres si différents, allant des bactéries jusqu'aux gros éléphants. Merci à ma planète, j'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci à ma planète, j'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Elle t'a donné la vie, des rires et des pleurs. T'a remis une palette de toutes les couleurs. Elle s'est faite discrète, jolie petite planète. Toi, tu marches sur son dos, tu roules sur sa tête. Merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite.
Alors, le cinquième combat, qui n'est pas commencé d'aujourd'hui, qui ne fait que continuer, c'est la technique. D'abord, il faudrait ne pas oublier la fable de Prométhée et d'Épiméthée, qui est toujours valable. Vous vous souvenez peut-être, Épiméthée et Prométhée. Épiméthée demande à Prométhée de le laisser faire seul le partage. Et il le fait. Mais voilà, c'est qu'il le fait d'une telle façon qu'à un moment donné, Épiméthée, qui n'était pas très réfléchi, avait, sans y prendre garde, dépensé pour les animaux toutes les facultés dont il disposait. Il lui restait la race humaine à pourvoir, et il ne savait pas que faire. Dans cet embarras, Prométhée vient pour examiner la situation. Il voit les animaux bien pourvus, mais l'homme nu, sans chaussures, ni couverture, ni rame, et le jour approchait où il fallait l'amener du sein de la terre à la lumière. Alors Prométhée, ne sachant qu'imaginer pour donner à l'homme le moyen de se conserver, vole à Athéna la connaissance des arts ainsi que le feu. Car sans le feu, la connaissance des arts est impossible et inutile. Et il en fait présent à l'homme. L'homme eut ainsi la science propre à conserver sa vie. Mais il n'avait pas la science politique, c'est-à-dire le politique, le gouvernement de la cité. Cela se trouvait chez Zeus. Et Prométhée n'avait plus le temps de pénétrer dans l'acropole que Zeus habite, où veillent d'ailleurs des gardes redoutables. Étrange, cette légende de la technique qui fait que Kierkegaard la reprend sous une autre forme dans un livre, et il écrit ceci. Il arriva que le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vient avertir le public. On pense qu'il faisait de l'esprit. On applaudit. Il insista. On rit de plus belle. C'est ainsi qu'Kierkegaard écrit. Je pense que périra le monde dans la joie générale des gens qui n'ont aucune conscience et qui ont cru à une farce, alors que le feu était dans la maison. La technique, c'est actuellement des travaux extraordinaires, des livres remarquables. Je pense par exemple à un livre qui a été écrit par Jean Mariani, qui est le directeur de l'Institut de la longévité, et sur le cerveau, l'immortalité, l'intelligence artificielle. Il est clair, Jean Mariani dénonce l'imposture du transhumanisme, ses excès, ses délires, ses données scientifiques. Il ramène les choses à leur juste place. Oui, nous allons vivre plus longtemps, mais de là à croire que nous sommes éternels, Jean Mariani, il est expert, dit clairement, c'est une imposture. Il n'est pas le seul. Et puis il y a un livre plus récent qui est paru, qui est la traduction d'un livre américain, paru aux éditions Les Arènes, qui est de Cathy O'Neill, qui est une femme qui a fait toutes les études universitaires qu'on peut faire dans le domaine de l'intelligence artificielle, des algorithmes, etc. Puis ensuite, elle va travailler, elle va sur le terrain. Et qu'est-ce qu'elle découvre ? Elle découvre les ADN, c'est-à-dire des algorithmes à destruction mathématique. ADM. Souvenez-vous de ce nom qui n'est pas autant utilisé que l'intelligence artificielle, mais qui nous en dit long. Et elle nous invite à être éveillés. Elle indique dans son livre un certain nombre d'orientation politique, sociétale, pour essayer de s'en sortir. Et elle finit, nous ne pouvons pas nous permettre de rester spectateurs, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est concerné, et si chacun n'a pas la conscience des algorithmes que sa banque utilise, que l'université utilise pour le recrutement, il ne peut comprendre ce qui se passe et les manipulations qui sont sous-jacentes. La technique, avec le temps, est devenue un enjeu redoutable de l'humanité. Il y a une technique qui, tous les matins, comme mon ami, qui ouvre son ordinateur et qui rend gras au Dieu, au pluriel, à Dieu, au ciel, pour cet instrument magnifique qui lui permet d'être en contact avec le monde entier. Mais il y a aussi d'autres technologies, comme les ADM, les algorithmes à destruction mathématique, qui peuvent demain marquer la fin de l'humanité. Alors, 5 combats. Soi, soi-même, l'autre, la mondialisation, la technique, et puis enfin la nature. Alors je mets sous couvert de la nature, je ne peux malheureusement pas m'y étendre étant donné l'heure. Non seulement le climat, ce n'est pas suffisant, c'est la biodiversité, c'est la totalité de ce qui compose la nature qui est en danger. Cette nature sans laquelle nous ne pouvons pas survivre, nous ne pouvons pas être. Alors, dans ce domaine, il y a tout à faire, tout à prendre conscience, non pas à un rythme lent, mais désormais à un rythme rapide, car chaque jour, les dégradations se perdent de partout. 5 combats pour le 21e siècle, des combats sournois, des combats dont on ne prend pas conscience, des combats qui sont lents parce qu'on se dit ça peut attendre demain, j'en meurs pas, et pourtant des combats déterminants. Alors, dans cet esprit, il faut se souvenir que les arts peuvent être, encore une fois, quelque chose de magnifique pour essayer de nous en sortir. Et je vous rappelle ce que je vous disais vendredi soir, je crois, qui est une citation de Kandinsky, qui est quand même pas n'importe quel peintre. L'art est un révélateur de la vie invisible qui constitue la réalité véritable de l'homme. L'art accomplit une découverte, une redécouverte proprement inouïe. Il place devant nos yeux émerveillés, tel un domaine inexploré, de nouveaux phénomènes oubliés, sinon occultés et niés. Et ce sont justement les phénomènes qui nous ouvrent l'accès à nous-mêmes, à ce qui seul importe en fin de compte. Voilà une perspective sur les arts qui, encore une fois, je vous le rappelle de façon originelle, veut dire façon d'exister, qui concerne chacun d'entre nous. Sans au moins un art, sans un intérêt aux arts, quels que soient les diplômes, personne ne pourra traverser ce 21e siècle. Et puis, il y a, sans aucun doute, une conception de sa propre vie. Il n'y a pas besoin d'être religieux pour avoir une conception spirituelle. Le mot spirituel n'est pas religieux. Le mot spirituel veut dire tout simplement souffle, souffle de vie, énergie. Alors, où est votre énergie? Où est le souffle de la vie? Voilà, par exemple, des questions absolument essentielles à se poser. Et puis, interrogez-vous, au nom de quelle perspective majeure gravite votre vie? Je pense en particulier que l'être humain est une gamme de 5 notes amplifiées par 5. Le corps, le cœur, la pensée, les intelligences, on en reconnaît 9, le souffle ou l'énergie créatrice ou le spirituel. Et puis, il y a 5 autres notes, le vivant, l'autre, le monde, la nature et le cosmos. Où en êtes-vous pour lire ces 2x5 notes? Alors, vient le temps de terminer cette émission. En résumé, je voudrais vous dire que dans ce 21e siècle, les guerres vont continuer, les guerres larvées, les violences, les haines. Les murs vont s'élever, il y en a déjà tant au monde. Il doit y en avoir plus de 70 dans le monde, de murs dont on parle, et que de murs invisibles, posés avec le voisin, avec les autres. Ou alors ce sont des ponts, comme on dit souvent. Voilà ce qui se joue. Sans solidarité, sans convivialité, je ne peux pas me connaître, et inversement, il y a une relation. Et puis, la technique, dans ce qu'elle ouvre comme perspective, la mondialisation, la nature, voilà les combats qui nous attendent, voilà les combats que nous sommes invités à vous livrer. Alors, en terminant cette émission, je me permets de vous faire une petite recommandation. Je vous invite à prendre un carnet d'une centaine de pages, 150 pages, et d'y noter des ressources. Ça peut être des livres, ça peut être des films, ça peut être d'autres éléments. Et laissez la place à ce qu'on vous a dit, ce que vous avez découvert par d'autres, et ce que vous allez découvrir par vous-même, peu importe votre âge. Et si le carnet ne suffit pas, vous en prendrez un autre. Faites une partie aux citations. Il y a vraiment des citations qui sont magnifiques. Je vous citais tout à l'heure celle de Eleanor Roosevelt. Par exemple, « Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté du rêve », mais il y a par exemple celle de Victor Hugo. « Ce qu'il faut toujours prévoir, c'est l'imprévu. » Alors, faites une place aux citations, à vos citations que vous allez vous-même produire. Il n'y a pas que celles que l'on trouve ailleurs. Et puis, il y a vos questions. Vos questions. Et puis, souvenez-vous que chacun d'entre nous intervient sur trois niveaux. Le niveau micro, le niveau méso et le niveau macro. Le niveau macro, global, il apparaît difficile d'accès. C'est un secteur sur lequel il y a plus de décomposition. On a l'impression qu'il n'y a pas prise. Le niveau intermédiaire, oui, il y a des choses qui se réalisent. Je pense par exemple à Antenne 2 qui présentait dimanche une très belle émission sur les maisons de partage. On invente de nouvelles manières d'être ensemble, de vivre ensemble. On invente de nouvelles convivialités. Et puis il y a le niveau micro, c'est-à-dire le niveau de chacun qui est essentiel. Car s'il y a révolution un jour, elle commence par celle qui nous concerne. Alors, chers auditeurs, j'ai dû noter 15-20 auteurs dans cette émission. Je les reprendrai dans une note de synthèse. Je vous rappelle le site www.culturepluriel.com/. Et je vous dis merci de votre attention. Je rends hommage encore une fois à Arthur et à Anna, qui sont deux jeunes qui entourent cette émission en permanence à leur manière et qui font que la qualité de l'émission est liée aussi à leur contribution. Il y a parfois des présences en coulisses plus importantes que des expressions visibles. Alors je vous souhaite un très très beau mois de mai, avec le soleil, avec la douceur, avec les fêtes qui s'organisent dans tous les villages, et nous allons terminer par une musique qui nous vient du Japon, une musique que j'aime beaucoup. Très bon mois de mai, et je vous retrouve à la fin mai pour trois émissions. La dernière aura lieu à la fin juin. Déjà, c'est terminé. Ce monde où va-t-il ? J'espère que je vous ai éclairé et surtout que je vous ai donné le goût et le désir de vous éclairer et de rechercher vous-même.